France Info.
Bonjour Julien Sandrel.
Bonjour.
Ex-scientifique, vous avez décidé de tout laisser tomber un matin pour vous consacrer à votre passion, l'écriture. Vous êtes effectivement l'auteur du best-seller La Chambre des Merveilles, paru en 2018, qui a tant marqué, au point d'ailleurs d'être adapté au théâtre et au cinéma dans un film réalisé par Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy et Muriel Robin, traduit en 27 langues, ce qui lui a permis de faire le tour du monde. Votre écriture et la fragilité solide avec laquelle vous posez les mots et les histoires de vie ont su faire mouche, et c'est avec les mêmes ingrédients que vous nous embarquez dans votre nouvel ouvrage. Aujourd'hui, avec pas moins de 2 millions de lecteurs convaincus par votre plume. Vous publiez Le jour où Rose a disparu chez HarperCollins. C'est l'histoire de plusieurs personnages qui officiellement ne se connaissent pas, mais qui finalement ont un lien sans le savoir, rangé derrière une énigme, le réveil à l'hôpital d'une jeune femme de 28 ans prénommée Rose, qui ne se rappelle de rien, et à qui des policiers annoncent qu'elle a eu un grave accident de voiture, qu'elle aurait provoqué pour mettre fin à ses jours. Vous aimez, Julien Sandrel, brouiller les pistes et embarquer votre lecteur dans un labyrinthe dont on ne sait pas finalement qui va sortir vivant. C'est ça votre plume et le but de votre écriture.
Alors non, c'est pas tout à fait le but de mon écriture. Le but de mon écriture, ça part toujours, en tout cas, un roman part toujours de l'envie de parler d'un thème en particulier. Donc là, en l'occurrence, dans ce roman-là, on parle de violences faites aux femmes. Mais c'est vraiment ça le point de départ. Et ensuite, je construis les intrigues. Mais ce qui est vrai, c'est que, en tant que lecteur, moi, j'aime bien quand on me prend par la main et qu'on me pose soit une énigme ou une enquête et qu'on m'emmène dans des endroits que j'avais pas imaginé quand j'avais commencé le livre.
C'est un peu une équation. Quelque part, vous avez gardé cette rigueur de scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une équation, il faut la résoudre, on en essaie de la résoudre ensemble.
Oui, en tout cas, je construis quand même pas mal mes romans, surtout un roman comme celui-ci où il y a justement des choses à découvrir, des rebondissements. On peut pas se lancer comme ça sans avoir de plan du tout. Mais j'aime bien quand même dans l'écriture me laisser emporter aussi par mes personnages et pas tout savoir à l'avance. Sinon, j'ai remarqué que je m'ennuyais profondément et j'ai besoin de ne pas m'ennuyer dans l'écriture. Donc, je connais globalement la structure globale de mon livre et je sais où je vais. Mais voilà, je me laisse plein de possibilités d'évolution de l'intrigue au fil de l'écriture.
Vous démarrez ce livre avec une citation d'André Chédid. Jusqu'au bord de ta vie, tu porteras ton enfance, ses fables et ses larmes, ses grelots et ses peurs. Vous adressez finalement à l'enfant qui sommeille en chacun de nous comme une condition sine qua non pour plonger pleinement dans ce livre.
Je pense qu'en fait, l'enfance, c'est quand même quelque chose qui est tellement marquant, même à la fin d'une vie. Moi, je me souviens, à la fin de la vie de mon grand-père, par exemple, il me racontait encore des anecdotes liées à son enfance, parce qu'en fait, c'est le moment où on se construit, où on construit notre personnalité, on construit aussi ses envies, ses aspirations, et parfois, ensuite, elles sont déçues ou pas, mais tout nous ramène finalement à l'enfance, et c'est ça que je voulais dire aussi en mettant cette citation comme ça en épigraphe du roman, c'est que, notamment dans cette thématique des violences, quand on a vécu des violences dans l'enfance, on est soit plus susceptible d'en subir à l'âge adulte, soit potentiellement d'en commettre aussi. Et donc, c'est quelque chose de fondamental, l'enfance qu'on a passée.
Dès le premier chapitre que vous avez appelé « Recommencer », vous posez le décor en citant cette fois-ci Virginia Woolf. « Chacun recèle en lui une forêt vierge, une étendue de neige où nul oiseau n'a laissé son empreinte. » L'espoir fait intrinsèquement partie définitivement de ce livre.
Oui, c'était une volonté. On parle d'un sujet qui est quand même assez difficile, les violences faites aux femmes. Mais moi, je me suis résolument placé du côté de la reconstruction. Notamment, donc, on parle au sein du livre d'une maison des femmes, puisque un des personnages qui s'appelle Aïda travaille dans une maison des femmes, qui est une structure de soins et d'accompagnement de femmes qui tentent de se relever de violences. Et c'était vraiment volontaire de ma part, parce que je me suis dit, des récits de femmes violentées, on en a déjà entendu un certain nombre. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'en parler, au contraire. Mais en tout cas, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux amener en tant que romancier ? Je peux amener des points de vue différents et je peux amener aussi ce point de vue sur la reconstruction et montrer qu'il existe des chemins pour en sortir de ce parcours de violence.
Il y a une énorme construction dans ce roman, c'est-à-dire que vous partez déjà du phénomène de la mémoire. Alors c'est très bien posé dès le départ. Effectivement, Rose se réveille donc à l'hôpital. Les policiers lui annoncent qu'elle a le visage tuméfié. D'ailleurs, elle a eu des impacts assez énormes au point de s'être fait refaire une partie du visage parce qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours. Ils le savent parce qu'ils ont découvert sur elle des lettres où elle racontait ses dernières volontés, entre guillemets, elle expliquait ses gestes. Et sa mémoire, elle est affectée. Mais elle est affectée du point de vue de tout ce qui touche à l'autobiographie, c'est-à-dire tout ce qui la touche personnellement. Par contre, elle a une mémoire globale qui reste en place. La mémoire, c'est le nerf de la guerre, justement, Julien Sandrel, pour oublier les violences faites ou peut-être aussi les formuler afin de les enterrer définitivement.
Quand on a vécu des violences, je ne pense pas qu'on puisse totalement les oublier. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec, apprendre à se reconstruire et à construire une nouvelle vie, un nouveau départ avec. Et c'était ça qui m'intéressait dans le personnage de Rose, c'est que là, on a la table rase du passé qui est faite de manière littérale, puisqu'elle n'a plus aucun souvenir de sa vie passée. Donc elle ne sait plus qui elle est, elle ne sait pas ce qu'elle a vécu. Elle a un petit petit élément en sa possession, qui est une sorte d'inscription assez étrange avec un numéro de téléphone et un prénom à moitié effacé qui sont écrits au stylo bille sur sa propre hanche. Et elle va se raccrocher à ça pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé. Ça m'intéressait effectivement que la mémoire lui soit complètement supprimée de manière à ce qu'elle puisse à la fois enquêter et puis se reconstruire sur des nouvelles bases.
Ce roman dresse le portrait de la société, des mots de la société. Je crois que c'est aussi la force de votre plume à travers des personnages. Dans les personnalités qui marquent, il y a effectivement Aïda. Alors elle a 34 ans, elle est française, elle est née de parents maliens installés à Paris dans les années 80. Elle travaille à la Maison des Femmes et contribue à réparer évidemment celles qui ont subi des violences sexuelles ou psychologiques, car elle est auxiliaire de puériculture. Donc elle s'occupe des enfants, des femmes qui viennent effectivement se faire, entre guillemets, réparer. Cette dimension sociale et même sociétale sont des dimensions qui sont incontournables pour vous quand vous racontez une histoire, histoire de faire changer, de bouger les lignes.
En tout cas, moi, je vis dans la société d'aujourd'hui, donc je peux pas fermer les yeux sur ce que je vois. C'est ça le moteur de mon écriture. J'ai vraiment envie de m'emparer de certains sujets et d'écrire une histoire autour de ces sujets-là. J'avais fait un roman qui s'appelle Les Étincelles, qui parlait de lanceurs d'alerte dans le domaine de l'environnement, parce que c'est un sujet qui m'intéressait et qui m'interpellait. Et là, il y avait ce sujet des violences faites aux femmes, qui, pour moi, est quand même un sujet assez incontournable. On parle de 300 000 femmes chaque année qui sont victimes, une femme sur 10 à l'échelle d'une vie. Il se trouve que j'ai une fille de 13 ans. Elle va commencer à avoir des relations amoureuses, à entrer dans l'âge adulte, et moi, je peux pas me dire qu'elle va évoluer dans un monde qui continue quand même de détourner massivement le regard de cette question. Depuis quelques années, on observe une forme de libération de la parole avec le mouvement MeToo, mais les choses évoluent tellement lentement. Notamment, là, j'entendais encore récemment la présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Maillefer, qui alertait sur le fait que les budgets étaient coupés, voire inexistants, pour que les associations qui aident les victimes de violences puissent fonctionner jusqu'à la fin de l'année. Donc moi, je me suis dit, bon, j'ai envie de parler de ce sujet. Je trouve qu'en plus, on n'entend pas vraiment les hommes sur ce sujet-là. La parole des hommes est assez rare. Je sais pas expliquer exactement pourquoi la parole des hommes est rare, mais je pense qu'il faut changer de posture. Je pense que les hommes peuvent dire, moi, je vous vois, je vous crois, je vous entends, et moi aussi, j'ai envie que les choses changent, donc je me tiens à vos côtés.
Vous citez d'ailleurs à la fin de l'ouvrage, vous rappelez les numéros de téléphone incontournables comme le 3919 quand on subit des violences. Il y a aussi une possibilité d'écrire sur Internet. Les femmes occupent effectivement une place déterminante dans ce roman. Vous citez celles qui ont fait avancer la condition féminine. Je pense à Olympe de Gouges, à Gisèle Halimi ou encore à Simone de Beauvoir. Vous leur rendez hommage, vous les racontez. Ce qui est très surprenant, Julien, ce qui interpelle même, c'est que vous racontez les femmes comme si vous en étiez une, comme si vous connaissiez nos souffrances. C'est assez étonnant, ça.
Peut-être que j'étais une femme dans une autre vie, je ne sais pas. Alors, je pense que j'ai depuis toujours une très grande empathie. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que mon parcours de vie est émaillé et accompagné par des femmes fortes, des femmes qui m'ont ouvert la voie. J'ai travaillé dans la plupart du temps dans des milieux où il y avait beaucoup de femmes aussi. J'ai travaillé donc dans du milieu scientifique, mais milieu scientifique côté biologie, qui est un milieu où il y a beaucoup de femmes. Dans l'édition, il y a beaucoup de femmes. Donc, en fait, moi, je me sens à l'aise avec les femmes. J'ai beaucoup d'amis femmes. Et donc, effectivement, je suis très sensible à la manière dont elles sont traitées dans la société. Et puis, je vous disais, j'ai une fille aussi. Et ça me rend peut-être encore plus alerte sur la manière dont les femmes n'ont encore aujourd'hui, malheureusement, pas les mêmes droits et pas les mêmes chances que les garçons.
C'est le mot vigilance qui nous accompagne tout au long de ce roman. Vous remettez les mots en place. Vous dissociez bien la victime de celui qui se comporte mal, du pervers, du prédateur, du bourreau même. Vous prenez le temps d'utiliser la délicatesse de différencier celle qui subit, celle qui maltraite, enfin celui ou celle qui maltraite. On se rend compte qu'en 2025, cette précision est toujours aussi importante.
Alors le monde n'est pas quand même totalement dichotomique, et justement ce que j'avais à cœur aussi de faire dans ce roman, c'est de montrer qu'il y avait aussi un chemin possible, un chemin de réparation. Et moi, j'ai entendu pas mal, alors j'ai rencontré beaucoup de personnes pour construire ce roman, notamment dans des structures type Maison des Femmes. J'ai rencontré, je pense, quasiment une cinquantaine de personnes qui ont accepté de me parler, de différents profils, des infirmiers, des sages-femmes, des gynécologues, des bénévoles aussi dans des associations, et des hommes. Et notamment, en fait, ce que j'ai entendu chez des hommes qui avaient vécu eux-mêmes des violences pendant leur enfance, c'est cette peur de la reproduction et de la transmission intergénérationnelle. Ils m'ont dit, en fait, quand j'ai commencé à avoir des relations amoureuses avec des femmes, je me suis dit, mais est-ce que moi aussi je vais devenir violent ? C'est terrible, en fait, ça, de se poser cette question-là et de se construire avec cette idée-là. Heureusement, il y en a beaucoup qui ne deviennent pas violents, tant mieux, et c'était ce que je voulais montrer aussi dans ce roman.
Il y a tout le long une crainte et une méfiance, finalement, vis-à-vis de la gente masculine. C'est assez étonnant, ça, d'ailleurs. À un moment donné, Aïda dit « Méfie-toi des mecs parfaits ». Je reprends textuellement ce que vous avez écrit, ça n'existe pas. C'est assez fou, d'ailleurs, de dire à quel point, quand quelqu'un semble être quelqu'un de bien, on continue quand même à se méfier en disant « C'est pas normal qu'il soit aussi bien ».
En fait, je pense que, de toute façon, évidemment, la perfection n'existe pas, et je pense qu'on est tous le fruit d'une époque. Donc, les hommes d'aujourd'hui ont vécu... Donc, moi, je suis un enfant des années 80-90... Donc autant vous dire que dans les années 90, enfin on voit d'ailleurs avec tous les extraits d'émissions de radio, de télé qui ressortent des années 90, à quel point on était à des années-lumière de la prise de conscience d'aujourd'hui sur la manière dont les hommes s'adressaient aux femmes. Donc les choses évoluent, donc ça c'est bien. Mais moi j'ai grandi donc dans un monde où on pouvait faire des blagues misogynes avec tout le monde qui riait autour de la table, y compris parfois les femmes. Peut-être qu'elles riaient jaune ou peut-être qu'elles osaient pas justement parce que la parole n'était pas encore possible. Mais en tout cas, elles subissaient cette situation. Et donc effectivement, moi aussi, bien sûr, quand j'étais adolescent, j'ai ricané à des blagues comme ça. Donc c'est aussi ça. Il faut se rendre compte du chemin qu'on a parcouru en tant que société et du chemin qu'on a aussi parcouru en tant qu'être humain.
En tant qu'être humain, vous avez parcouru un sacré chemin. Effectivement, vous êtes passé de scientifique à auteur, à romancier. C'était un rêve qui sommeillait en vous, Julien Sandrel ?
Oui, c'était une sorte de rêve d'enfant. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, quand on me posait la question « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?», je disais « écrivain ou metteur en scène ». Et après, il se trouve que moi, je suis d'un milieu plutôt modeste. J'ai personne dans ma famille qui travaille dans le monde de la culture ni de la littérature. À chaque fois que j'ai eu des velléités de partir en littéraire, on m'a dit « mais pas du tout, tu es bon en sciences, fais des sciences ». Donc j'ai fait un parcours scientifique, bac scientifique, prépa scientifique, école d'ingénieur. Et après, j'ai travaillé pendant 15 ans sans trop poser de questions. Et j'ai fait une sorte de crise de la quarantaine avant l'heure en 2015, où j'ai eu cette vision vertigineuse de moi dans les 30 années qui suivraient professionnellement, et j'avais pas du tout envie de ça. Et j'ai essayé de me reconnecter à ce moment-là à mes envies d'enfant et d'adolescent, et tout en haut de la liste de ces envies, il y avait l'écriture qui était là, et c'est là que j'ai commencé à écrire, donc en 2015, en parallèle de mon boulot. Je me disais pas que j'allais pouvoir en vivre, je voulais juste rajouter cette dimension-là dans ma vie, et il se trouve que de fil en aiguille, ça a donné La Chambre des Merveilles qui est sortie en 2018, et qui a changé ma vie, puisque le succès de La Chambre des Merveilles a fait que j'ai pu basculer directement sur l'écriture à temps plein.
Comment il est né ce livre ?
Il est né justement de ce questionnement, puisque La Chambre des Merveilles met quand même en scène une femme qui, grâce à la liste de rêves de son fils, finalement, va elle-même se remettre en question et réinventer sa vie. Donc ça faisait totalement écho à ce que je viens de vous raconter sur moi, les questions que je me posais. Et le point de départ, en fait, de l'histoire en particulier, c'était un matin, j'étais avec mes deux enfants sur un trottoir parisien. Je trouvais qu'ils allaient bien trop vite, ils étaient en trottinette, il s'est rien passé, mais il y a eu une sorte de presque accident qui a fait que je me suis dit, qu'est-ce que moi je ferais s'il arrivait quelque chose à l'un d'entre eux, ma vie basculerait en un quart de seconde, la leur évidemment aussi, mais la mienne aussi. Est-ce que je pourrais continuer à vivre avec le même type de priorité qu'avant ? Et la réponse était évidemment non. Et je me suis dit, bon, ok, je peux écrire cette histoire, ça peut peut-être intéresser quelques personnes.
Comment vous avez vécu cette notoriété, ce succès finalement foudroyant, hein, parce que ça a été immédiat, hein.
Ça a été assez perturbant, parce qu'en plus, le succès de La Chambre des Merveilles a commencé finalement avant même sa sortie, puisque les droits étrangers et pour le cinéma, etc., ont été cédés avant la sortie. Donc, il se trouve que moi, j'étais donc salarié dans une entreprise. On me disait qu'il se passait ça, mais sauf que le livre n'existait même pas, donc ça n'avait pas vraiment de réalité. Et à l'époque, je me suis dit, bon, je vais prendre 6 mois pour accompagner La Chambre des Merveilles et puis pour commencer à écrire le second. Et puis ensuite, on verra. Vous voyez, je disais second, je disais pas deuxième à l'époque, donc je pensais qu'il n'y en aurait que deux. Et puis finalement, les 6 mois durent depuis 8 ans.
Toutes ces femmes, elles vivent beaucoup en souffrance finalement et dans le silence. C'est assez fort ça d'ailleurs. La maison des femmes sert aussi à ça. C'est un lieu où la parole est mise en exergue, l'importance de la parole en tout cas. C'est le lien ça, entre tout ce que vous racontez dans vos histoires, de prendre la parole, de dire les choses.
Je suis écrivain, donc effectivement c'est important les mots, c'est important le langage. Et souvent, quand on a vécu des violences, on a été dépossédé de notre propre histoire, on a été dépossédé de nos mots. Les femmes qui ont vécu des violences sont souvent des femmes à qui on a répété qu'elles n'étaient bonnes à rien pendant très longtemps. Donc le fait de se réapproprier sa propre histoire d'une façon ou d'une autre, le fait de créer des choses de ses propres mains ou avec ses propres mots, en fait c'est hyper reconstructeur. Moi j'ai rencontré des femmes absolument formidables dans ces structures type maison des femmes, justement parce que bien sûr il y a l'accompagnement médical, mais il y a l'accompagnement psychologique, et l'accompagnement de reconstruction passe par des ateliers de création. Donc il y a des ateliers de création de bijoux, des ateliers de création type slam comme celui qu'il y a dans le roman, et en fait tout ça contribue à la reprise de confiance en soi, la restitution de l'estime d'elle-même à ces femmes qui en ont été privées pendant trop longtemps.
Vous citez une phrase de Simone de Beauvoir, mais alors en plein milieu du livre, c'est assez rigolo. Dans toutes les larmes s'attarde un espoir. C'est ça qui maintient en vie.
Je pense que s'il n'y a plus d'espoir, effectivement, c'est ça qui devient compliqué à vivre. Mais moi, je pense qu'il y a toujours quand même la possibilité d'avoir un espoir. Et ce type de structure, justement, ça redonne l'espoir par l'accompagnement, mais aussi par les rencontres qu'on y fait, puisque les femmes qui viennent dans ces structures-là rencontrent aussi d'autres femmes qui ont vécu des situations peut-être pas exactement les mêmes, mais en tout cas similaires, et elles peuvent s'entraider aussi, et ça crée parfois des amitiés qui permettent aussi cette phase de recommencement, de reconstruction d'une nouvelle vie.
Là, c'est aussi un portrait que vous dressez du personnel aidant, de l'importance effectivement qu'il faut maintenir ces structures-là. Vous l'avez précisé avec une incapacité presque nationale à maintenir ces lieux-là. Vous êtes inquiet aussi, Julien Sandrel. C'est aussi pour ça que vous prenez la plume et que vous racontez ces structures.
Oui, bien sûr. Je suis inquiet quand je vois que le problème n'est pas du tout pris à bras-le-corps par nos gouvernants et qu'on coupe les crédits, on n'aide pas ces structures-là à se monter. Aujourd'hui, il existe une trentaine de structures type Maison des Femmes en France, sachant qu'il y a 10 ans, il en existait zéro, exactement comme ça, rattaché à des centres hospitaliers, etc. Mais c'est bien évidemment pas suffisant. Donc Rada Hatem, qui est la fondatrice de la première Maison des Femmes en France qui se situe à Saint-Denis, elle se bat chaque jour pour essayer que le modèle SM et d'en ouvrir un certain nombre. Parfois, il y a besoin aussi de parrains, de marraines qui vont apporter autre chose, qui vont mettre un petit peu de lumière dessus. Typiquement, moi, je connais très bien l'actrice Alexandra Lamy, qui est très engagée aussi contre les violences faites aux femmes. Et je l'avais accompagnée pour les besoins d'un documentaire l'année dernière, dans l'inauguration de la Maison des Femmes de Montpellier, dont elle est la marraine. Alors évidemment, c'est pas elle qui a ouvert la Maison des Femmes de Montpellier, mais elle a contribué à sa façon en allant voir le directeur de l'hôpital, etc., en essayant de convaincre les parties prenantes qu'il y avait une nécessité. Donc si ce livre peut permettre aussi à certaines personnes, soit dirigeantes, soit en tout cas décisionnaire, de se dire oui, pour mon département aussi, ce serait bien qu'il y ait une maison des femmes, c'est tout gagné.
Il y a deux sentiments contraires que vous racontez dans cet ouvrage. Quand on a souffert et vécu des choses douloureuses, soit on ne veut pas les désenfouir parce qu'on a peur de faire rejaillir cette difficulté, cette douleur qu'on a pu vivre, soit effectivement ce besoin de formuler les choses pour les exorciser. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire allez-y, foncez, posez-vous les vraies bonnes questions et renseignez-vous, il y a des moyens de vous exprimer.
En fait, c'est surtout, je pense que si certaines personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, lisent mon roman et reconnaissent certains de leurs comportements ou certains des comportements de leurs conjoints, et ça les fait réfléchir et ça leur donne envie d'aller voir une maison des femmes, par exemple, je pense que c'est ça l'essentiel, c'est de se faire aider. Parce que je pense que c'est des situations qui sont très difficiles. Et ce que j'essaye de montrer dans le roman aussi, c'est qu'il y a une très grande solidarité, une très grande sororité, et que ça, ça permet de s'en sortir. Tout seul, c'est très compliqué. Donc voilà, allez voir des structures type maison des femmes, parce que vous allez être... Alors déjà, vous allez rencontrer des personnes géniales et puis vous allez être accompagné et vous allez probablement recommencer, ouvrir un nouveau chapitre de votre vie.
Merci beaucoup Julien Sandrel d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Le jour où Rose a disparu. Évidemment, on ne dirait pas ce que Rose est devenue. Merci beaucoup.
Merci.